Equinox Rock, la radio découverte.
Sur le vif. Un autre regard sur les instantanés de la vie. Pierre, je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices et je vous informe d'entrée de jeu que cette fois j'aurai un partenaire lors de cette émission et sans doute lors des émissions ultérieures. Il s'appelle Frank. Frank, bienvenue. Tu es familier d'ailleurs de la maison, toi. Veux-tu dire un petit mot à propos
Je dis bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. En effet, je suis un habitué de la radio, puisque ça fait combien de temps là, maintenant? 4 ans, 5 ans, 4 ans, je ne sais pas. Enfin, le temps passe vite. Par contre, donc, je vais me présenter. Je m'appelle Franck, je suis connu de la radio. Et il se fait que en écoutant l'émission Zéro, ce qu'on appelle l'émission Zéro, je me suis dit, ça me plairait de pouvoir être dans cette émission et de pouvoir poser des questions à ce cher Pierre. Et lors d'un CA, conseil d'administration, il y a Guy, le président, qui me dit, Franck, j'ai pensé à toi pour cette émission, est-ce que ça te conviendrait? Et je dis, Guy, mais c'est ce que je voulais. Donc voilà, tout se passe comme parfait. Ça doit se passer.
Parfait, parfait, parfait. Bienvenue. Et j'espère que nous allons voir une émission vivante, dynamique, du tonnerre. Un petit, peut-être, résumé de pourquoi cette émission, de quoi s'agit-il en fait? Il s'agit d'une série d'émissions relatives à un autre regard, effectivement, sur les instantanés de la vie. Pas tous, bien sûr. Une sélection de pris sur le vif. Sur la vie, la vôtre, la mienne, celle des autres, celle de Frank, des photos qui poussent la réflexion. Le thème principal concerne le défi qui touche tout un chacun, à savoir choisir sa vie. Il est donc question d'une simple chronique sur soi et sur la vie. Une série de regards impromptus, sur trois aspects de notre humanité, au quotidien, à savoir soi et soi-même, je me comprends et je m'apprécie. Pas évident. Soi et les autres, ça pose un sacré défi parfois. Je vis avec d'autres qui m'inspirent et qui m'aident à me découvrir. Parfois, pas toujours. Soi et la société, j'appartiens à un tout duquel je ne peux pas m'isoler. Avec des côtés positifs et moins positifs, il faut le reconnaître. Le but, modeste mais sérieux, est de nous faire réfléchir et peut-être nous étonner sur le thème plus large, lui, de gérer sa vie. Tant que faire se peut, bien entendu. Les principes de sur le vif sont simples. Je présente des éléments de nos vécus en espérant déclencher une résonance en vous, les auditeurs et auditrices, et une résonance aussi chez Frank, des réactions bien entendu, des questions, des commentaires. Je le ferai d'ailleurs parfois d'une façon provocante, lui aussi je crois.
Absolument.
Afin de stimuler nos pensées et nos réactions. Ce que je dirais en fait n'est pas important. C'est ce que vous pensez, auditeurs et auditrices, et toi aussi, Frank, pensez, ce que vous allez penser de ce que je dis. C'est ça qui sera l'important. Deuxième principe, vous n'avez bien entendu aucune obligation de croire ce que je vais partager avec vous. Je n'ai pas la vérité et ne connais pas la vôtre, en supposant qu'elle existe bien, la vérité. Trois, je vais m'efforcer de rendre chaque impromptu ou émission aussi vivante que possible. Ce sera en quelque sorte mon challenge. La première chronique, en février, s'était concentrée sur les choix de vie, avec un petit test, celui de l'abeille et de la mouche, toutes deux piégées dans une bouteille et qui essayent désespérément d'en sortir. Cette expérience démontre que nous avons en fait deux façons de faire nos choix. La rationnelle, l'abeille, je réfléchis, je comprends et je choisis finalement. Et l'intuitive, la mouche, j'essaye et par chance, je sors de la bouteille et je survis. Trois éléments peuvent être dégagés de cette expérimentation. Premier élément, dans un monde en changement rapide, tel que le nôtre, il faut apprendre à désapprendre. Ce qui était bon hier ne l'est sans doute plus aujourd'hui, c'est évident. Deuxième principe. Différentes situations de vie exigent des approches différentes, rationnelles et instinctives. C'est pas la même chose. Et troisièmement, l'art de gérer ses choix est très lié a la capacité d'identifier, de profiter et même de créer les opportunités. Créer les opportunités, pas simplement les identifier, les saisir, les inventer. Il est aussi, je pense, incontestable que la chance joue un très grand rôle dans nos vies et il faut savoir aussi la saisir, parfois au bon. J'ai également abordé très brièvement l'impact des technologies, l'intelligence artificielle par exemple, sur nos existences. Un smartphone est plus qu'un téléphone, c'est une autre façon d'être. L'extension de l'espérance de vie change d'une façon dramatique les choix et les priorités de tout un chacun. Franck, que veux-tu dans la vie, l'intensité ou la sérénité?
Ou les deux?
Non, pas les deux, impossible, parce que souvent, c'est pas tout le temps, l'une est au dépens de l'autre. En complément, je voudrais, avant d'entamer la deuxième chronique qui portera sur les atouts de la vie, présenter ce qu'on peut appeler une équation de vie. De quoi s'agit-il? En fait, il semblerait que les choix de la vie sont dépendants de trois facteurs. Deux positifs, un négatif. C'est la vie. Facteur numéro un, c'est la valeur de l'objectif qu'on se donne. Si l'on veut être sain, en bonne santé demain, c'est un objectif, quelle est sa valeur? Est-ce qu'on accorde beaucoup de valeur à cet objectif-là? Cette valeur ou valorisation va déterminer l'investissement qu'on va faire dans ce schéma de vie qui est le nôtre. Deuxième positif, le parcours, le processus par lequel on va atteindre son objectif, réaliser ce que l'on souhaite, que les enfants réussissent à l'école, que j'ai la promotion que je souhaite avoir, etc. Donc c'est un autre plus. Allons-nous avoir du plaisir à faire ce que l'on doit faire pour réaliser notre objectif? Le négatif, incontestablement, c'est le coût. Il y a toujours un coût pour atteindre son objectif. Il faudra s'investir, il faudra dépenser de l'argent peut-être, négliger certaines choses. Donc il faut deux positifs moins un négatif. C'est un peu ce que j'appelle moi l'équation de la vie. Maintenant, ce que j'aimerais faire avant d'entamer cette émission, c'est peut-être partager avec les auditeurs et auditrices, et avec toi, Franck, la réaction d'un auditeur qui m'a envoyé des commentaires sur choisir sa vie. Je les lis, tel quel. Non, pas au sens littéral en tout cas, dit-il, ou du moins pas totalement. La liberté totale n'existe pas, car elle correspondrait à l'absence de toute détermination. Or, dit-il, à notre naissance, des choses sont déterminées. Couleur de peau, origine, sexe. Nos besoins fondamentaux, nos pulsions, nous guident aussi. Manger, boire, trouver la sécurité, respirer. Et il ajoute, on a évidemment des possibilités régulières de choix, mais toujours dans des contextes donnés sur lesquels on a une certaine prise. En fait, la question est assez vaine. Avant de passer un peu de musique, Franck, veux-tu réagir à ce que dit notre auditeur?
Alors donc, j'ai justement lu avec beaucoup d'attention ce que disait cet auditeur. Alors, évidemment, on peut partager son avis, et je le partage en partie, sauf si on amène une notion qui s'appelle la réincarnation, qui part du principe que nous avons toujours notre liberté. Donc, évidemment, si on prend la réincarnation, une vie n'est pas unique, c'est une succession de parties de vie, donc différence entre une vie et une existence. Et donc, à ce moment-là, si on est, noir, c'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour se retrouver à cet endroit-là. Maintenant, quant à manger et respirer, je suis désolé, vous pouvez choisir de ne pas manger, de ne pas respirer. Ça s'appelle la mort, mais le choix existe. Donc venir dire qu'on ne peut pas, si on peut, il y a des gens qui le décident d'arrêter de manger, de respirer. Donc voilà, je crois que la liberté est beaucoup plus large qu'on ne le pense, et malheureusement, on n'en profite pas assez, parce que je crois qu'on s'enchaîne pour beaucoup de choses où on pourrait être libre.
Autrement dit, Franck, si je vous entends bien, vous suggérez qu'en fait, ce n'est pas grave si on rate sa vie. Si on croit à la réincarnation, on aura une autre chance plus tard de toute façon.
Alors, la question, c'est de savoir, ça veut dire quoi rater sa vie?
C'est d'arriver à la fin de sa vie, comme beaucoup de gens, plus qu'on ne pense, je crois, disent à la fin de leur vie, et on atteint tous et toutes ce passage ultime disent « c'est pas la vie que je voulais ».
Alors justement, je dirais que c'est un message d'espoir de cette réincarnation, puisque ça vous permet de recommencer, ou en tout cas de remettre le tissu sur le métier. Donc c'est quand même intéressant. La question, après ça, c'est de savoir est-ce que cette réincarnation existe ou pas. Ben ça, comme disait l'autre, il y a personne qui est venu pour en témoigner, qui est revenu pour en témoigner. Moi, je pense que c'est un projet qui est intéressant. En tout cas, moi, il me convient bien. Donc, j'ai rien contre cette réincarnation.
Très bien. Je crois qu'il nous faut réfléchir à ce grand, grand problème de la réincarnation.
Est-ce que c'est un problème ? C'est peut-être justement la non-réincarnation qui serait un problème.
Sauf qu'on n'a jamais eu l'évidence, la preuve factuelle de personnes qui sont revenues en disant « Ah oui, je sais, en Inde, en Chine peut-être, au Tibet ».
Alors, mon cher Pierre, on n'a jamais eu la preuve factuelle de l'existence de la réincarnation, pas plus qu'on a la preuve factuelle de la non-existence de la réincarnation. Donc, balle au centre.
Juste. Musique, s'il vous plaît.
Equinox.
Mais oui, tout à fait. C'est beau, la vie. Pas toujours beau, mais en général, ça dépend un peu de nous de décider si c'est beau ou pas beau. Il y a des personnes, vous savez, ils ont tout de positif dans leur vie. Ils viennent de recevoir la promotion, ils ont gagné au loto, les enfants réussissent bien à l'école, l'épouse ou l'époux vit une vie agréable et heureuse. Et vous leur demandez, alors qu'est-ce que vous pensez de la vie ? Et leur réaction, c'est des « Bah écoutez, regardez le ciel, regardez le temps, ça n'arrête pas de pleuvoir. »
Ben justement, Pierre, si on parle de la vie, moi je pense que la vie, c'est ni beau ni pas beau. La vie, c'est, point barre. Après ça, c'est une question de perception. On va prendre l'histoire de la pluie. Si je suis vacancier et qu'il pleut, je veux dire « zut, il pleut ». Et si je suis agriculteur juste à côté du vacancier, je veux dire « super, il y a de la pluie pour mes salades ». Donc, c'est juste une question de perception.
C'est non seulement une question de perception, mais au-delà de la perception, c'est une question d'attitude et de personnalité. Certaines personnes ont tous les déboires possibles, viennent de perdre son travail, viennent d'avoir perdre son argent, l'épargne qu'il a mis à la banque, sa femme vient de le quitter, il est presque dans un divorce, etc. Vous lui demandez alors comment ça va ?
Ça va.
Et il vous dira, des petits problèmes, tout va s'arranger.
Voilà, donc question de perception.
Et d'attitude.
Et d'attitude, bien sûr.
Avant de parler maintenant... avec des atouts de la vie, j'aimerais quand même faire un petit commentaire, une présentation très courte en quelque sorte, sur l'impact culturel. En fait, tu viens de toucher la chose, la problématique ici par ton commentaire. L'impact culturel de l'éducation, de la socialisation sur les attitudes et les représentations des gens, des hommes et des femmes. Et je voudrais partager avec toi et les auditeurs et les auditrices, deux schémas culturels classiques. Et je te lance un défi, je te tutoie, je peux te tutoyer, j'espère.
On peut tout ce qu'on veut avec moi.
Bien. Je pense qu'il y a dans le monde, y compris en Belgique, deux façons fondamentales de penser sa vie. Il y a ce que j'appelle le schéma de l'escalier. Autrement dit, au début de ta vie, tu es au bas de l'escalier. Le but de la vie fondamentale, c'est de grimper l'escalier, de monter, d'atteindre le sommet de l'escalier, parce qu'au sommet de l'escalier, il y a une superbe chambre, une pièce, un paysage extraordinaire, et là, tu peux être le plus heureux des hommes et des femmes. Je concède qu'il y a des petits problèmes avec ce schéma, c'est que parfois tu atteins le sommet de l'escalier et finalement c'est pas tout à fait ce que tu espérais. Ou bien tu es bloqué au milieu de l'escalier, ou alors après l'escalier, un autre escalier, ça n'arrête pas. Premier schéma. En parenthèse, ce schéma culturel qui est imposé sur beaucoup d'hommes et de femmes, et d'enfants aussi en fait, exige ou requiert la qualité de l'objectif. L'objectif dans la vie, c'est important. Deux, le fait qu'il faut s'organiser, il faut s'investir, il faut planifier. Et troisième élément de ce schéma, c'est qu'en fait, on est responsable de sa vie. Il ne faut pas blâmer les autres. Deuxième schéma. Et puis alors, je voudrais avoir tes réactions. Deuxième schéma, c'est la montagne russe. Alors, il y a des moments dans la vie où on monte. Il y a des moments dans la vie où on descend. L'objectif, oublie. Ce qui est important, c'est le voyage. Tu ne vas peut-être pas là où tu vas, mais au moins tu as le plaisir d'aller quelque part. Donc, oublie l'objectif. Planifier, pas du tout. S'organiser, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est développer sa capacité à s'adapter, à s'ajuster aux circonstances de la vie. Troisième point, lié à ce schéma, c'est que finalement, on n'est pas responsable. Comment peut-on être responsable quand on est pratiquement déterminé à un énorme pourcentage dans notre vie ? Ta réaction ?
Alors, moi, très facile. D'abord, je prends le schéma numéro 2. Alors, pourquoi est-ce que je n'aime pas l'escalier avec avancer pour arriver à un objectif qu'on s'est donné ? Je vais prendre le cas que je vois malheureusement souvent. Des personnes qui roulent en Porsche. Ils ont 60, 70, 80 ans pour sortir de la voiture, il leur faut un palan. C'était la volonté qu'ils avaient à 20 ans, mais comme ils étaient en bas de l'escalier, ils n'avaient pas la capacité d'acheter la voiture sauf en modèle Matchbox. Et donc, ils ont attendu. Ils sont restés figés à cette idée d'avoir cette Porsche. Et puis, quand ils ont les moyens d'avoir la Porsche, ben, ils n'ont plus l'âge pour avoir la Porsche. Alors, bon, moi, la méthode d'escalier, je la trouve marrante, mais je ne veux pas la vivre. Mais j'aime bien voir des gens qui sont dans des voitures comme ça. J'aime bien les voir sortir des voitures. C'est assez rigolo. Alors, je préfère de loin le deuxième schéma, mais attention, avec la responsabilité. Parce que je pense que nous sommes toujours responsables.
Ne crois-tu pas qu'avec le deuxième schéma, la montagne russe, qui finalement dit « lorsque la vie vous sert, profitez-en au maximum ». Mais attendez-vous à ce que la vie vous desserve à certains moments. Vous allez descendre. Et alors quoi ? Vous êtes descendu, vous êtes misérable, vous n'êtes pas heureux, vous allez attendre ou vous allez basculer dans le schéma d'escalier, vous battre pour votre vie ?
Alors, là, Pierre, je dirais, quand vous allez au restaurant, si vous commandez du poisson, vous n'aurez pas de viande, enfin en principe. Donc, je pense que nous recevons de la vie ce qu'on commande. Après ça, le souci, c'est de savoir quelle est la mécanique de la vie. Et c'est ça le grand problème, c'est que si on joue aux échecs sans connaître les règles, on va perdre très rapidement beaucoup de pièces. Et une fois qu'on a joué quelques fois, eh ben on commence à en perdre moins, et puis on en perd de moins en moins, et on devient Kasparov ou l'autre, je ne sais plus comment il s'appelait, et on joue très bien. Donc je pense que c'est très intéressant de vivre la vie, justement, pour apprendre à la connaître. Alors évidemment, ça fait des grattes, ça fait des piqûres, ça fait des pleurs, etc. Mais ça fait partie de la vie.
Donc tu n'acceptes pas du tout l'idée qu'il y a des moments dans la vie où il faut être dans le schéma de la montagne russe, mais il y a aussi des moments dans la vie où il vaut mieux être dans le schéma de l'escalier.
Non, moi je dirais que je suis dans l'idée d'un objectif, mais attention, sans délai. C'est-à-dire, sans délai, pas dans le fait de dire tout de suite, je ne mets pas de temps, ça prendra le temps que ça prend. Moi, comme je n'ai pas de problème avec la réincarnation, si je ne l'ai pas dans cette vie-ci, je l'aurai dans la prochaine. J'ai aucun souci avec ça.
Musique, s'il vous plaît.
Equinox.
Les atouts de la vie. Allons-y. Et je crois qu'il faut vraiment commencer au commencement à savoir bien établir qu'au fond, pour nous, hommes et femmes, pour l'espèce humaine, l'atout quand même principal, auditeur, auditrice, Franck, c'est l'intelligence. L'intelligence, je sais, on peut dire beaucoup de choses, que ça est mal mesuré, qu'en fait on ne sait pas exactement ce que c'est, qu'il y a différentes formes d'intelligence. On peut être intelligent d'une façon analytique, on peut être intelligent d'une façon artistique, etc. C'est vrai. N'empêche que fondamentalement, la capacité d'activer en soi l'analyse, la compréhension des choses, l'organisation des choses, c'est quand même important pour notre survie et pour vivre sa vie. Je crois qu'il faut bien dire que, en fait, les recherches démontrent que l'intelligence repose sur 4 fonctions essentielles. La capacité d'être factuel, d'identifier les choses réelles de la vie. Je sais, ça peut conduire à un énorme débat, mais aussi la capacité d'analyser, de comprendre, la capacité aussi intelligente d'être intuitif, de se projeter dans l'avenir, de se projeter dans ce qui n'existe pas et de voir éventuellement une meilleure vie, par exemple, pour soi ou pour ses enfants ou pour les personnes autour de nous. Et enfin, la capacité de relation, la capacité d'établir des relations avec d'autres personnes. Donc, il y a ces 4 fonctions essentielles de l'intelligence, le factuel, l'analytique, l'intuitif et le relationnel. Fondamental, à mon avis, pour la survie et le bonheur de tout un chacun. Je te vois sourire.
Ah oui, évidemment. Alors, disons que c'est toujours le même problème, c'est que après ça, il faut voir ce qu'on met dans le mot intelligence. Moi, je fais la distinction entre intelligence et intuition. Pour moi, l'intelligence est liée au mental, à la capacité du cerveau, alors que l'intuition n'est pas du tout liée au cerveau, c'est quelque chose qui est plutôt lié au cœur. Alors, quand on parle d'intelligence, comme vous l'avez fait, j'ai pas de problème parce qu'on retrouve tout. Donc, c'est bon. Si maintenant on parle d'intelligence dans un autre sens tel qu'on le vit pour l'instant dans ces régions-ci, on parle plus d'individualisme, et là j'ai un souci, parce que pour les personnes plus fragiles, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes à intelligence réduite, c'est-à-dire les personnes un petit peu handicapées, pour eux il faut de la solidarité, il faut de la coopération. Et donc je ne peux pas accepter de l'intelligence qui serait individualiste. Moi je préfère une intelligence, à intelligence je préfère le cœur, je préfère
Mais le cœur, Franck, sans intelligence, c'est du gâchis, c'est du perdu. Il faut les deux.
C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut trouver un équilibre entre l'intelligence et le cœur. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence est mise au pinacle et on abuse d'un tas de personnes plus fragiles pour pouvoir prendre pour soi. Ça, c'est pas correct. Je pense que le fait d'être intelligent implique une responsabilité vis-à-vis des amoindris. Donc je crois que quand on est un bon chef, personne intelligente, on doit tenir compte de ce qui est dans notre environnement. Ça, c'est mon opinion. Je suis un petit peu pour la coopération et je crois que si on veut que les choses changent, c'est vers ça qu'on doit aller, à mon avis.
J'ai un énorme, énorme problème avec ce que tu viens de dire par rapport aux affaiblis. Moi, je crois que c'est tragique de déterminer et de décider que certaines personnes dans un groupe, dans une société, sont des affaiblis.
Ben, un enfant de 3 ans, c'est quand même plus faible qu'une personne de 50 ans.
Ça dépend dans quel secteur. Sur le plan artistique, il peut être intuitif, il peut être beaucoup plus fort, imaginatif, beaucoup plus fort que l'adulte que tu es et que
mais
je suis.
Mais l'artistique n'a rien à voir avec l'intelligence.
Oh, si, énorme !
Pour moi, pas. C'est plutôt l'intuitif.
Un peintre n'est pas artistiquement intelligent.
Je pense qu'il est plutôt intuitif.
Un poète.
Je pense que c'est plutôt intuitif. L'intelligence, pour moi, c'est plutôt lié à la capacité mentale, donc le cerveau. Ça, pour moi, c'est l'intelligence. Et le reste, c'est plus intuitif, c'est du ressenti. On est dans le ressenti, c'est moins, on ne sait pas le mesurer, c'est quelque chose qu'on ressent. Pour moi, 1 plus 1, c'est 2, ça, c'est de l'intelligence. Par contre, est-ce que le vert est plus beau que le jaune? C'est un choix. Il n'y a rien qui détermine si c'est plus beau ou moins beau.
Bien. Moi, je suis en fait en partie d'accord avec toi. Encore que. Je pense que des gens qui sont très intelligents ont en général une faiblesse au niveau du cœur et du relationnel.
Alors ceux qui sont pour moi, ceux qui ne sont pas intelligents.
Pas du tout, ce sont des génies. C'est des génies, mais les gens ne les intéressent pas. Einstein n'était pas intéressé dans les gens. Les grands génies, les vrais génies, vivent dans leur nuage, ils vivent dans leur dimension, ils sont impatients avec les gens, ils ont vraiment un problème relationnel. Et ceux qui n'ont du cœur, sans avoir un minimum d'intelligence, c'est un désastre total.
On parle bien d'équilibre, Pierre. Alors, donc, venir dire que Einstein était quelqu'un qui était dans l'intelligence et qui n'avait pas de cœur, etc. Si vous lisez les lettres de Einstein vis-à-vis de sa fille, il parle justement de la souffrance qu'il vit de ne pas avoir de communication telle qu'il voudrait avoir avec sa fille. À la fin de sa vie, il s'excuse à sa fille de se dire « j'ai malheureusement pas pu être le père que j'aurais voulu être avec toi parce que justement, j'arrive pas à te capter ». Donc, il a souffert énormément de ça. Alors, il a apporté ce qu'il a apporté à l'humanité, on est d'accord. Hein. Mais lui-même a souffert de son intelligence et de son manque de cœur.
Mais, puisque tu vas en profondeur dans ce domaine, et qu'en est-il de sa relation avec son fils ? Son fils qui n'était pas de santé mentale adéquate, paraît-il, et qui l'a ignoré, qui n'a même pas reconnu pendant toute sa vie. Attends, c'est pas un problème de cœur, cela?
C'est bien ce que je dis. Il a eu un problème de cœur. Il était dans le mental, dans l'intelligence. Et tant mieux. Heureusement que des gens existent comme ça. Parce qu'il nous a apporté énormément au niveau des mathématiques, de la physique. Mais à côté de ça, je pense que ce qui fonctionne vraiment, c'est trouver un équilibre. C'est-à-dire que si on veut être heureux, c'est toujours une question d'équilibre. Est-ce que l'eau, c'est mauvais pour la santé?
Si vous buvez
20 litres par jour, vous allez voir que oui, c'est clair.
Non, je suis en désaccord. Ce n'est pas une question d'équilibre. Ça, c'est la façon facile d'en sortir d'un dilemme. Non, c'est une question de pouvoir. Et je pense que tu seras d'accord avec ça. D'activer le cœur quand le cœur est nécessaire et d'activer l'intelligence quand la situation dans laquelle on se trouve est absolument nécessaire.
Okay, ça s'appelle de l'équilibre.
Oh, d'accord.
Désolé, ça s'appelle de l'équilibre.
Oui, moi j'appellerais ça la capacité de s'adapter, de s'ajuster aux situations dans lesquelles on se trouve.
Tout à fait.
C'est du déséquilibre, parce que j'investis à fond dans l'intelligence à un moment donné, et je néglige le rationnel, parce que le bâtiment est en feu, et que j'ai pas le temps d'investir du temps en toi pour savoir qu'est-ce que tu penses, quelles sont tes émotions, est-ce que ça te touche beaucoup ce feu. On se tire du bâtiment, tout de suite.
Alors Pierre, l'équilibre, ça veut pas dire que c'est constant. On va voir un cœur, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Heureusement, parce que si ça s'ouvre et que ça se ferme plus, il y a un problème. Donc l'équilibre, c'est quelque chose de mouvant. Hein. La vie, elle est mouvante, c'est pas quelque chose de stable.
Ah, donc c'est un équilibre mouvant.
Mais bien sûr, le mouvement, c'est par définition, le mouvement, ça bouge. Hein. Un mouvement qui bouge pas, ça s'appelle pas un mouvement.
Mais enfin, si je t'entends bien, en fait, on dit tous les deux la même chose.
Ah ben bien sûr qu'on dit la même chose. C'est ce que je dis depuis le début. Je disais que votre terme intelligence m'intéresse dans la mesure où vous repreniez quatre éléments. Mais moi, je sépare les éléments. Donc, pour moi, l'intelligence, c'est quelque chose lié au mental.
Séparer les éléments, c'est une façon intelligente de regarder la situation, d'aborder la problématique, en fait.
Disons que ça me permet de pouvoir mieux analyser les différents éléments.
Nous sommes d'accord. Je voudrais alors passer à l'atout 1, au-delà de l'intelligence. Au-delà de l'intelligence, l'atout 1. On continue ?
Je pense qu'on ferait d'abord bien une petite pause musicale pour que les gens puissent se reprendre. Et après ça, nous retournerons dans l'atout numéro 1.
Equinox.
Voici donc, au fond, les trois chansons que nous avons utilisées, les trois morceaux musicaux, illustrent assez bien tout notre propos et notre discussion, voire même notre débat. Jean Ferrat, c'est beau la vie. D'accord. Deuxième, Angelo Branduardi, va où le vent te mène. Tu vas peut-être pas là où tu veux, mais au moins tu vas quelque part. Et enfin, la chanson de Michel Fugain, L'homme. L'homme intelligent. Atout numéro 1. Atout numéro 1, je vais peut-être te surprendre. L'atout numéro 1, c'est finalement ce que j'appelle la vitalité ou l'énergie. Comment peut-on vivre bien et être heureux si on n'a pas cette capacité fondamentale, je pense, hein, c'est ma recherche en tout cas, de se mobiliser soi dans certaines circonstances de la vie, mais également de mobiliser d'autres personnes. Parce qu'on ne peut pas toujours faire tout seul, loin de là. Donc, il y a ce qu'on appelle un quotient de vitalité qui est fondamental. Alors, je pense qu'on est avec un certain potentiel de vitalité. Il y a des enfants, des gens qui naissent avec un énorme potentiel de vitalité. Il y a des gens, regarde les enfants, il y en a qui, il faut qu'ils bougent tout le temps. Il faut qu'ils touchent tout autour d'eux. Il faut qu'ils cassent des choses de temps en temps. D'autres enfants, tu les mets dans le sofa, sur le sofa, un petit cartoon, un petit dessin animé, et puis tu ne les entends plus pendant deux heures. Il y a des personnes qui sont des affamés de la vie. Des affamés de la vie. Ils en veulent et ils en veulent plus. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe par rapport à la vie de tout un chacun. Il y a un écart entre l'utilisation actuelle, présente dans une situation donnée de son potentiel énergétique, en quelque sorte, et le potentiel. Il y a un écart. Et tout l'art de vie, finalement, c'est de diminuer, c'est de réduire ce fossé entre la capacité ou l'occasion, l'opportunité que j'ai d'activer mon énergie maintenant et ce potentiel que j'ai. Et ce potentiel, c'est finalement essentiel pour pouvoir vivre sa vie au mieux. Je dois maintenant qualifier un peu ce que je viens de dire. Oui, je crois que c'est biologique. Je pense qu'on ne peut pas changer le potentiel de vitalité qu'on reçoit à la naissance. J'ajoute immédiatement qu'un haut potentiel de vitalité, donc affamé pour la vie, n'est pas du tout une condition de bonheur. Loin de là. Des gens qui ont énormément d'énergie sont des gens, en général, qui sont frustrés en permanence. Ils atteignent quelque chose, ils veulent déjà autre chose. Ils ne sont jamais complètement satisfaits et contents. Par contre, reconnaissons-le, qu'un quotient de vitalité très bas, dans le cadre d'une organisation par exemple, si tu travailles avec quelqu'un qui a un très faible, quotient de vitalité, ça peut être pénible. Rien ne se fait, les décisions ne sont pas prises, on retarde tout, etc., etc. Deuxième observation, cette énergie que l'on a en soi, en parenthèse, il y a des gens qui sont des personnes, hommes et femmes, du matin, s'éveillent à 6 heures du matin, ça y est, ils sont prêts à partir. Hein. D'autres personnes, ont-ils 11 heures du matin, sans les 3 tasses de café, oublient. Ces personnes sont disco à 11 heures du soir. Les premiers sont au lit, bien entendu. Donc, il y a des variations personnelles aussi, par rapport à ces conditions physiologiques, en quelque sorte. Il y a aussi l'introverti et l'extraverti. L'introverti va investir son énergie pour se transformer lui-même. L'extraverti va utiliser son énergie pour transformer le monde. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser son énergie. Et enfin, une troisième observation, c'est que les personnes qui ont un haut niveau d'énergie attirent les autres personnes. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une relation de travail, que ce soit dans une relation de coopération, ceux qui ont beaucoup d'énergie vont éventuellement monopoliser autour d'eux pas mal de personnes. Et je te donne un exemple, ou je donne aux auditeurs et auditrices un exemple concret. Prends un rock singer. Il est sur la scène. Il est en train de faire des pirouettes, il chante fort, et il a un quotient. Le quotient intellectuel, en parenthèse, peut-être pas très élevé, si je peux me permettre de le dire, surtout s'il a utilisé beaucoup de produits chimiques, il a injecté beaucoup de produits chimiques dans son organisme. Mais la vitalité, tout le monde veut s'approcher, on veut le toucher, on veut être près de lui. Donc c'est un attracteur. L'énergie attire les gens. Et je termine en disant, tu peux être un moine au Tibet, et ton niveau d'énergie est tellement élevé, la concentration de vitalité en toi, de ton énergie est tellement élevée dans ce moine que quand il prie, il ne touche plus le sol. Je t'écoute.
Alors ça, j'attends de le voir, qu'on ne touche plus le sol en priant. Moi, je crois qu'il y a des lois physiques et je ne crois pas qu'on peut s'élever du sol comme ça. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Je voudrais le voir, mais peut-être que ça existe. Alors, concernant justement ce premier atout, vitalité ou énergie, je vais être un petit peu dans une autre direction. Le quotient de vitalité qui est fondamental, c'est vrai qu'elle est dans la matière, mais vous avez un Stephen Hawking qui avait un quotient de vitalité mentale. Il attirait également énormément de gens, il nous a apporté beaucoup, et pourtant ce gars était dans une chaise roulante. Il était avec une femme qui était beaucoup plus jeune que lui, qui est restée avec lui, et donc je crois que la vitalité ne doit pas spécialement être physique. Je pense que la vitalité existe sous différentes formes. On peut très bien avoir une vitalité de pensée. On peut penser, par exemple, il y a plusieurs personnes à laquelle on pourrait penser, justement, qui ont traversé l'existence, qui étaient tétraplégiques, etc. Ces gens ont apporté énormément. Et pourtant, au niveau vitalité physique, c'était pas grand-chose. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à la vitalité qui est visible, c'est-à-dire la physique, mais la vitalité, point barre. Alors, vous avez pris justement un exemple qui sont les moines tibétains.
Oui.
Alors, peut-être que ces gens prient et qui changent des choses dans le monde qui ne sont pas visibles, puisque par définition, la pensée n'est pas visible. Peut-être qu'ils apporte des choses. On a vu dernièrement sur Facebook que des personnes avaient prié pour que la pluie tombe en Australie et que la pluie est tombée. Est-ce que c'est en relation ou pas? J'en sais rien, personne ne le sait. Mais je dirais que la vitalité est importante, mais dire que la vitalité est le premier atout, ce serait quand même très désagréable pour les personnes qui sont physiquement amoindries, à mon avis.
Mais tu es quand même d'accord que, un, le niveau d'énergie, c'est important. Il y a des moments dans la vie où on en a besoin.
Bien sûr. Ça dépend
de
ce qu'on fait.
La capacité de se mobiliser. Et ça dépend, bien sûr, de ce qu'on va faire avec son énergie. Hein, on a des exemples célèbres où des gens ayant beaucoup d'énergie, des chefs d'État, ont mis le monde en feu et flamme.
Tout à fait.
D'accord ?
Tout à fait.
Deux, la question aussi, es-tu d'accord pour reconnaître qu'il y a différentes personnes avec différents niveaux d'énergie ?
Mais bien sûr.
Est-ce que tu es enfin d'accord que l'art de vivre, finalement, c'est la capacité de mobiliser son énergie en fonction des exigences de la situation dans laquelle tu te trouves ?
Mais de nouveau, Pierre, vous parlez d'équilibre. Pour moi, c'est une grande notion fondamentale du bien-être, c'est de trouver l'équilibre. Si j'ai une très grande énergie, je vais prendre l'exemple. Si j'ai une très grande énergie, je dois porter, par exemple, un, un élément, on va dire un cylindre, qui pèse 5 kilos. L'énergie que je vais faire pour le soulever au niveau de mes doigts va être importante. Si je dois le prendre un œuf avec la même énergie, l'œuf, je ne le prendrai pas, il sera écrasé. Donc, tout est une question de savoir la quantité d'énergie que je vais mettre suivant ce qui est à faire. Alors, c'est évident qu'une voiture qui peut rouler à 300 km/h peut rouler à 60, alors qu'une qui roule à 120 ne peut peut-être pas rouler à 300. Donc, ça peut être intéressant d'avoir énormément d'énergie. Après ça, il faut savoir la gérer. Et c'est ça le grand problème. C'est toujours une question d'équilibre. Vous avez beaucoup de gens, par exemple, qui, à cause de leur énergie, se sont fait du tort.
Non, pas d'équilibre. L'équilibre, c'est un et un, et c'est bon, c'est équilibré. Non, c'est une question de capacité intuitive ou intelligente, analytique, d'adapter son niveau d'énergie aux exigences de la situation personnelle ou sociale dans laquelle on se trouve.
Mais je suis d'accord, mais pour moi, ça s'appelle de l'équilibre.
Ok, d'accord.
Mais je partage tout à fait cet avis, hein, mais pour moi, ça s'appelle de l'équilibre. Quelle est la quantité d'énergie que je dois mettre tenant compte que je vais porter un œuf ou que je vais porter un cylindre qui pèse 20 kilos? Avec une seule main, ça va être difficile. Avec 6-7 kilos, la préemption va être différente pour l'œuf.
Absolument.
Voilà. Et si je ne suis pas intelligent, ben je vais écraser. Si je suis un ordinateur, une machine automatique,
voilà.
Je vais mettre l'énergie et je vais passer à travers
mais
tout.
Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, es-tu quand même d'accord pour dire finalement, tu parles d'équilibre, moi je parle d'adaptation, que finalement les mots n'ont pas de sens?
Alors non, moi je crois justement que les mots ont énormément de sens, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens ne s'entendent pas. Les mots, ils ont une importance, les mots sont nés à une époque, ils ont une énergie du fait qu'on les a utilisés.
Non.
Ah ben ça c'est votre droit.
Non, Frank. Les mots n'ont pas de sens. Le sens ou l'essence des mots se trouve dans les gens. Toi et moi, nous utilisons les mêmes mots, mais on veut dire des choses différentes. Reconnais-le.
Ben c'est pour ça qu'on ne s'entend pas. C'est pour ça qu'on est obligé de reparler pour essayer de trouver le sens du mot que nous utilisons. Et à un moment donné, on se dit, mais pour finir, on dit la même chose. Ben oui, on dit la même chose. C'est bien le problème du mot. Si on était tout à fait d'accord sur le mot, c'est l'avantage des mathématiques. +1 = 2, vous n'avez pas discuté. +1 = 2.
Si, je discute.
Ah, même 1 + 1 = 2.
Ah oui. Okay. Oui, on démontre aujourd'hui que ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Ouais, 1 + 1 peut faire +15 ou -7.
Alors ça ne sera pas avec moi. Ça, je vous le dis tout de suite.
Mais il y a des scientifiques qui disent qu'il faut remettre les vieilles règles.
Okay.
Et la vieille sagesse d'hier, on démontre aujourd'hui que 1 + 1, ça peut faire autre chose que 2.
D'accord, ok. Ben, moi, je suis content pour eux.
Et je crois, Franck, que finalement, tu peux imaginer... Les auditeurs et auditrices peuvent imaginer un monde dans lequel on utiliserait les mots avec le même sens. Ce serait l'horreur. L'horreur. Heureusement, nous avons cette capacité d'utiliser les mêmes mots et de dire autre chose. Et ça nous rend créatifs, inventifs.
Alors, je suis d'accord que ça nous rend créatifs et inventifs. Mais à un moment donné, il va falloir trouver un lieu où on peut se parler. C'est-à-dire, il va falloir utiliser des mots qui vont convenir. Si moi, par exemple, vous dites que une femme, c'est une fille, oui, bien sûr, mais une fille, c'est pas spécialement une femme. Donc, après ça, à quoi servent les mots? Sinon, on prend un seul mot et on n'utilise que ce mot-là. Et on peut même passer au borborygme, si on veut, des onomatopées. Si on a mis des mots, c'est qu'il y a une raison. La langue française est très riche, c'est pas Guy qui va nous contredire. Et malheureusement, on utilise très peu de mots. Mais si on va retrouver les mots, le sens des mots, vraiment l'étymologie des mots, il y a beaucoup à prendre là-dedans.
Il n'y a pas de sens des mots. Il y a le sens des mots, le sens que l'on donne aux mots. Prends un dictionnaire, tu trouves un mot, et le sens du mot, pour avoir le sens du mot, ça te renvoie à un autre mot, et encore un autre mot, et encore un autre mot. Mmh. C'est sans fin.
Alors ça peut être sans fin, en effet, mais pour moi, une échelle, ce n'est pas un éléphant.
Encore que... Dans l'imagination.
Le problème, c'est dans l'imagination. Mais ici, ce n'est pas de l'imagination. Ici, nous sommes dans du concret. Enfin, on est censé être dans du concret. Et donc, je pense que les mots ont une importance. D'ailleurs, quand on n'utilise pas les bons mots, ça devient parfois des mots. M-A-U-X. Donc, moi, je suis très attaché aux mots.
Et je suis quand même assez d'accord sur le fait que c'est aussi vrai qu'on est toujours sur cette planète en train, nous, les hommes, les femmes, de se tuer les uns les autres, de se détruire les uns les autres à cause des mots.
Souvent, malheureusement, oui, parce que quand on finit par se parler, on se rend compte qu'en fait, on était d'accord sur le point, mais on n'avait pas utilisé les mêmes mots. Et c'est dommage. Et je pense justement que quand on travaille par l'intelligence, c'est moins efficace que quand on travaille par le cœur. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. On va pouvoir tourner en boucle, parce que j'ai déjà tourné quelques fois, et chaque fois je reviens au même point. Donc, je pense que le cœur est quand même très intéressant.
Mais le cœur ne va pas te donner le sens des mots, le cœur va te donner la valeur des mots.
Mais ça me suffit.
Comment peux-tu donner de la valeur sans avoir du sens?
Parce que la valeur, nous allons la déterminer ensemble.
Oui, mais il faut d'abord avoir le sens. Je ne peux pas dire je suis d'accord et j'approuve et je valorise cela sans savoir ce que c'est.
Ben, c'est là qu'on va avoir la discussion. C'est de se dire, bon, pour finir, on est d'accord sur quoi? Parce qu'à un moment donné, il va falloir trouver un accord, ou bien on ne s'entend pas. Mais si on part sur une idée qui est différente, ben, prenons le cas des vacances. Vous voulez aller à un endroit, je veux aller à un autre, et puis on parle, et puis pour finir, on n'ira pas du tout où l'un et l'autre avaient envie d'aller, parce qu'on va partir ensemble, mais on va se trouver ailleurs.
Peut-être une dernière question dans ce contexte, en tout moins pour cette émission-ci. Comment peut-on se mobiliser soi-même? Est-ce que tu serais d'accord? On peut se mobiliser et monter son niveau d'énergie, hein, réduire le fossé entre l'actuel et le potentiel au niveau de l'énergie, par exemple, en trouvant un job qui est en ligne avec ce qu'on a vraiment envie de faire.
Ah ça, moi, j'en suis complètement convaincu. Donc je pense que quand on fait un travail qu'on aime, d'abord pour moi, le mot travail est un mot que je n'aime pas, parce que ça vient de la racine du mot travail, c'est un instrument de torture. Je préfère œuvrer. Je préfère le terme œuvrer. Et donc quand on fait un travail, mot que je n'aime pas, qu'on aime, bon, on ne le sent pas. Il est clair. Je prends un exemple très simple. Une maman qui essuie le derrière de son enfant, ça la dérange pas. Le voisin qui doit essuyer le derrière du même enfant, ça le dérange. Pourquoi? Mais parce que un le fait avec amour, l'autre le fait parce que c'est un boulot. Et donc je pense qu'en effet, si on aime réellement ce qu'on fait, ça devient très léger.
D'accord.
D'où l'idée de travailler avec le cœur. Je reste sur cette idée-là que le cœur est quand même vraiment très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler sans gagner sa vie.
Arrête, hein. Il faut un équilibre.
Tout à fait, on est d'accord. Vous prêchez un convaincu, là.
Est-ce que tu es d'accord aussi que, par exemple, la compétition peut être un facteur d'énergie, de mobilisation?
Alors, est-ce que
La compétition,
telle qu'elle est faite aujourd'hui, je pense que ce n'est pas bon. Parce que c'est vrai qu'on découvre des choses en même temps, mais on lance des frais doubles pour la même chose. Donc si on se mettait ensemble, je crois que ce serait la vraie compétition. Pour moi, c'est de trouver un meilleur bien-être. Et pas se dire, il faut qu'on trouve le produit avant l'autre. Ça, c'est de la compétition de bas niveau, de bas étage, pour moi.
J'ai une question pour toi, et puis on va passer un peu de musique. Une question. Comment évaluerais-tu, comme ça, tout de suite, spontanément, le niveau d'énergie de notre émission jusqu'à présent?
Alors moi, j'aime beaucoup, parce qu'on fait des échanges. Je me rends compte qu'on dit les choses différemment, mais pour finir, c'est comme si on était sur un disque, il y a un centre, et on tourne tous les deux sur le centre. Alors on n'est pas dans le même sillon, mais on est sur le même disque, donc ça me va bien. Et après ça, ça me permet de me remettre en cause, parce que j'entends quelque chose de différent, donc ça vient chatouiller chez moi tous mes capteurs, et je me dis, bon, est-ce que mes capteurs sont bons? Et donc c'est très intéressant d'avoir ce genre de débat qui me plaît beaucoup, mais je me rends compte qu'en définitive, on dit la même chose avec d'autres mots.
Tout à fait. Écoutons maintenant, si tu veux bien, c'est en ligne ce qu'on vient de dire et discuter, Aznavour.
Ce cher Charles.
Je m'y voyais déjà.
Tout à fait.
Equinox.
Voilà. Voilà, Franck. Je crois que nous allons en rester là. Une émission pleine de vitalité, d'énergie, de débat aussi, hein, matière à réflexion, disons-le. Alors, la prochaine émission, ensemble, nous allons nous concentrer sur trois éléments. Le premier élément, rebondir sur ce que tu as dit, en fait, sur la communication entre êtres humains, pas avec l'intelligence artificielle, entre hommes et femmes. Deuxième élément, on va se concentrer alors sur la motivation. Que savons-nous de la motivation aujourd'hui? Qu'est-ce qui motive les gens à faire ou ne pas faire quelque chose? Et enfin, si nous avons le temps, nous terminerons la prochaine mission avec une discussion très chaude, mais très chaude, sur le pouvoir.
Très bon programme, j'aime bien ça me plaît bien.
Parfait. Musique, s'il vous plaît, pour conclure.
Equinox, ça va vous changer de la radio.